Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci d'être là, de vous être déplacé un soir plutôt frais. On a déjà changé de saison pour parler de quelque chose de peut-être beaucoup plus chaud, en fait, sur le plan de la politique, qui est effectivement l'effet Trump. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes les questions de gens. Je vais essayer. Si jamais il y a des insatisfactions, vous me le direz après. C'était un peu un vaste programme de dire en une heure ce qu'on ferait peut-être dans un cours de 10. Donc, il se peut que je parle vite, que j'essaye de passer toutes mes slides, et puis, mais je vais essayer d'être intelligible dans ce dont je vais parler. J'ai essayé de partir du point de départ. L'homme qui a été élu il y a un an, puis l'image du Time, qui était la personne de l'année, était intéressante. On allait chercher un personnage beaucoup plus sombre, très poutinesque à certains égards. Alors l'homme qui a été élu a défié toutes les prédictions. Si vous vous souvenez bien, quelques jours encore avant l'élection de Donald Trump, on disait qu'Hillary Clinton gagnerait. On a été très peu nombreux à dire, et je dois le dire, j'ai fait partie des gens qui ont douté, qui les ont exprimés publiquement, mais c'était en fait juste de la prudence. Parce que même moi, je n'y croyais pas, en disant, vous savez, parfois, il y a la prime à l'urne, on a déjà vu ça aux États-Unis, etc. Donc, c'était vraiment par pure prudence, et au fond, tout le monde, tous les schémas qu'on avait, tous les modèles prédictifs semblaient dire qu'au fond, elle devait gagner. Et de fait, la victoire a été relativement courte pour Trump. Ça a été une victoire qui s'est jouée, en fait. Regardez bien mes statistiques. Clinton, 232. Trump, 306. Regardez trois États. Le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Je reviens en arrière. Vous les voyez, ces trois États-là sont les États qui ont changé. Sinon, Hillary Clinton gagnait avec 278 grands électeurs. Donc, ça s'est vraiment joué à trois États et vraiment quelques électeurs. 23 000 votes dans le Wisconsin, 11 000 dans le Michigan, 44 000 en Pennsylvanie, à l'échelle des 300 millions d'Américains. C'était relativement anodin. Et en fait, le gros moteur, l'élément central de l'élection, ça a été la colère et le changement. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons regarder de notre côté de la frontière avec un intérêt certain, parce que la colère et l'aspiration au changement ont été des moteurs d'autres élections. On l'a vu par exemple en France, on l'a vu ailleurs, et on va être en élection bientôt. Donc c'est une question qu'on doit se poser et c'est quelque chose surtout qu'on ne doit pas balayer sous le tapis. Il y a un enjeu important. 39% des électeurs voulaient le changement et en fait, dans ceux qui voulaient le changement, la très grande majorité a estimé que Trump incarnait le changement. Donc c'est un élément important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une colère vis-à-vis, ça ce sont les données du Pew Research Center, une colère vis-à-vis des politiciens, du gouvernement fédéral, ce sentiment qu'il y a une distanciation de l'élite par rapport au peuple, et particulièrement le Congrès, la déconnexion avec le Congrès est un élément important parce que le cynisme était extrêmement présent. Les Américains avaient le sentiment que les élus sont moins honnêtes et plus égoïstes que l'Américain moyen. Donc cette distanciation est un élément dont nous devons tenir compte collectivement, puisqu'on appartient d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où on est soit en politique, soit dans certains domaines, on doit tenir compte de cette perception de ce cynisme. L'élément important qui va encore perdurer pour la prochaine élection, c'est que seulement 3% des législations qui ont été adoptées au Congrès, de celles qui ont été proposées. C'est très peu. Ça veut dire que les gens ont l'impression qu'au fond, on a une espèce de gros hémicycle qui est une patente à gosse, là, qui ne sert à rien. On va appeler ça comme ça. Je peux le faire avec un accent plus français, c'est encore plus classe. Donc, c'est un élément important, le sentiment que ces gens sont payés à ne rien faire, n'avancent pas. Donc, cette insatisfaction est un élément important. Et puis, dans la période, parce qu'il y a eu ce choc de la crise de 2008, qui a été un choc énorme, qui a traumatisé les Américains, qui a fait prendre conscience un petit peu de tous les éléments, de tous les dysfonctionnements qui perdurent encore aujourd'hui. On est sorti de la crise. Mais si on se place du point de vue d'un Américain moyen, lui dit « Ok, le chômage a baissé, mais je n'ai pas la job qu'on m'avait promise ». Donc, il y a cette déconnexion-là. Et puis, l'ouverture des frontières, le poids de l'ouverture des frontières sur les Américains, là aussi, c'est oui, il y a ouverture des frontières, mais les jobs qui étaient les jobs des mines de charbon, elles sont rendues au Mexique. Il n'y a pas eu de retour. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de retour des entreprises sur le sol américain, ce sont pour des emplois très, très sophistiqués qui sont généralement des emplois de supervision d'usines robotisées. Donc, les gens qui travaillaient au fond des mines ne sont pas les gens qui vont avoir retrouvé de l'emploi. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, enfin, lorsqu'il y a des problèmes, des tensions, eh bien, souvent, on va se rabattre sur les immigrants illégaux. Ils sont moins de 11 millions, en fait, aujourd'hui. Leur nombre est en déclin parce que l'immigration illégale, puis je mets illégale entre guillemets, mais l'immigration illégale est en fait une immigration qui est liée à l'économie. On va utiliser ces gens-là dans les fermes de la vallée impériale, on va les utiliser dans les hôtels, et ce sont des jobs que les Américains ne veulent pas faire. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder, par exemple, en Caroline du Nord, au plus fort de la crise, il y a 11% de taux de chômage en Caroline du Nord. Et là, on décide de donner la priorité pour les emplois agricoles aux Américains de souche. Il y en a 23 qui se présentent pour 2000 emplois. Il y en a 2 qui sont arrivés à la fin des récoltes. Parce que ce sont des jobs que les Américains ne veulent pas faire. Donc, ça, tout ça a quand même un impact sur ce sentiment que les élites ne servent pas l'Américain moyen. Et puis, il y a ce rapport aux médias de masse auquel je contribue, puis vous le disiez. Puis effectivement, c'est une question que je me pose tout le temps. Comment est-ce qu'on peut parler à ces gens-là qui, justement, n'ont pas confiance et qui vont avoir un a priori négatif? Alors, effectivement, vous le voyez dans les courbes, la tendance, particulièrement marquée chez les Républicains, mais chez tout le monde, c'est que les médias de masse mentent. Donc, il y a ce sentiment qu'il y a une espèce d'élite new-yorkaise, d'élite des côtes, qui ne dit pas la réalité. Et souvenez-vous, juste avant l'élection, on avait d'un côté le Tea Party et de l'autre côté Occupy Wall Street, avec un discours qui est concordant, qui vont se retrouver. On a donné de l'argent aux banques. Washington est complètement déconnecté. Donc, c'est tous ces éléments-là, on va retrouver... Vous savez, la politique, c'est affaire à cheval. Les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, sont en fait beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'ils ne sont proches du centre. Et on voit souvent d'ailleurs un passage d'un bord à l'autre et une proximité. Cette proximité se retrouve ici. Mais c'est un discours qui a été particulièrement audible, qui doit l'être toujours et qui doit surtout être entendu. Oups, je suis revenue en arrière. Puis ce que raconte l'élection de ce pays, c'est un extrait de la chronique de David Brooks dans le New York Times. « But if you were stuck in a jobless town, watching your friends, oily and opaque, scrambling every month to pay the electric bill, and then along came a guy who seemed able to fix your problems and hear your voice. Maybe. » Ben oui, on pouvait se dire que les trucs qui allaient pas, le Hollywood tape, la proximité avec l'extrême droite, oui, mais il allait nous promettre quelque chose de différent parce que ça ne va pas bien dans les quartiers. Puis il faut comprendre qu'aux États-Unis, ce sont des quartiers entiers, toutes classes socioprofessionnelles confondues, qui sont touchées par la crise des opiacés, qui sont touchées aussi, qui ont le sentiment que la couleur de l'Amérique change et quelque part, ils ne se trompent pas. Alors, on s'est retrouvés avec un premier président sans expérience politique. C'est la première fois. Zéro. Ni militaire. Qui n'a jamais été un leader, mais justement, qui était un vrai outsider. C'était quelqu'un qui promettait d'être complètement différent. Puis c'est surtout, regardez dans les ensembles, dans les républicains modérés, l'establishment, les libertariens, le Tea Party, les conservateurs chrétiens, Trump est en dehors. Il n'incarne pas une branche. Il est un brand à lui tout seul. Il est une marque et il joue beaucoup là-dessus. Donc, c'est ce personnage atypique que l'on a élu. Je ne pouvais pas résister. Et si on fait son bilan à l'heure actuelle, bien, il y a des promesses qu'il a tenues. Effectivement, il a nommé Neil Gorsuch à la Cour suprême. C'est quelqu'un qui est ultra conservateur, qui va probablement affecter un certain nombre de jugements, plus encore lorsque le prochain juge sera parti. Il a retiré le pays du partenariat transpacifique. Il a relancé l'économie, même si ce n'est pas lui. Il y a un impact. L'économie va mieux. Donc ça, c'est très net. Et on s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. On a fermé la frontière aux réfugiés syriens et l'expulsion des migrants non documentés a pris de l'ampleur, je vous en parle tantôt. Par contre, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc son bilan est mitigé. Construire un mur, c'est loin d'être fait, je vous en reparle dans un instant, mais il y a effectivement un budget qui vient d'être déposé sur la table avec 1,6 milliard pour le mur. Ne pas intervenir en Syrie, effectivement, on l'a donné à la Russie. Donc c'est fait. forcer la Chine à cesser de manipuler sa devise. Non, ça, c'est pas fait. Déchirer l'ANENA, on essaye encore. Abroger l'Obamacare, ça n'est pas fait. La réforme fiscale, ça n'est pas gagné, c'est dans le budget. Donc, un bilan globalement assez mitigé. Et puis, avec toujours cette histoire, vous la trouverez en ligne, elle est intéressante, si on peut la faire rouler, vous voyez la dette américaine, en fait, qui court alors qu'on se parle, parce qu'évidemment, compte tenu des sommes, chaque seconde, en fait, a un impact sur la dette américaine, ce qui est un poids qui pèse encore. Donc, ça, c'est le bilan global. Maintenant, sur le plan de la politique étrangère. Donald Trump a littéralement servi à la Chine le leadership du monde. Et cet article-là, qui doit être un article du Guardian, dit bah, la Chine brague, c'est l'ère de Xi. On a vraiment changé l'ordre établi, l'ordre du monde. Parce qu'en se retirant du Moyen-Orient, parce qu'en se retirant du partenariat transpacifique, dont une des fonctions était justement d'enfermer, d'enserrer la Chine dans une espèce de carcan où elle aurait été obligée d'opérer sur une base multilatérale et à égalité avec les États-Unis. Là, on a rompu cet équilibre. Et il y a un certain nombre de domaines où on voit la Chine petit à petit s'investir en politique étrangère. Ils viennent d'ouvrir une base militaire à Djibouti, par exemple. Sont très présents, commencent à être présents en Arabie Saoudite. Nous ne parlons pas de l'Afrique où la Chine est depuis longtemps un acteur majeur. Et puis, si on parle de l'Asie-Pacifique, ben, ça fait très longtemps que l'Australie, l'Indonésie essayent de naviguer à travers un système de traité pour contrer la puissance de la Chine. Donc, en faisant ça, on a peut-être entamé le déclin de l'Empire américain. C'est une des hypothèses que l'on voit dans ce domaine-là. En politique étrangère, c'est un élément important à souligner. Oui, effectivement, on a une évolution des attentats globalement dans le monde, mais en Occident, le nombre d'attentats terroristes n'augmente pas tant que ça, pour aussi important et aussi visible qu'ils paraissent. Je dirais même qu'en Amérique du Nord, les attentats n'ont pas vraiment augmenté substantiellement. Vous avez plus de risques aux États-Unis de mourir tué par un enfant qui a trouvé une arme à feu que de mourir d'un attentat terroriste. Vous avez plus de risques de mourir d'un attentat commis par un blanc bien de chez nous, d'extrême droite, dans une église, par exemple, aux États-Unis, que vous avez de risques de mourir d'un attentat djihadiste. Donc, on a une espèce de grosse loupe mise sur un phénomène et qui continue à l'être à travers le ciblage des migrants, mais qui est complètement déconnecté. Alors que, dans le même temps, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème global. Dans le monde, le nombre d'attentats augmente. Mais il est circonscrit à quelques États, le Nigeria, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, qui sont des problèmes. Et le retour, notamment des djihadistes de ces zones-là, est quelque chose dont les États-Unis, mais nous aussi au Canada, allons devoir tenir compte. Ça, ce sont des éléments qui devraient être pris en compte maintenant, qui ne le sont pas assez, alors que l'on va regarder, on va cibler, profiler, sans tenir compte en fait, des éléments de sécurité beaucoup plus précis, spécifiques, liés à ces régions-là, que là aussi, Trump a décidé d'abandonner. Dans le même temps, peut-on parler de déclin de l'Empire américain alors qu'à l'heure actuelle, la moitié des dépenses militaires reste encore l'apanage de la puissance américaine ? Êtes-vous une puissance qui décline lorsque vous représentez la moitié des dépenses militaires au monde ? Ou êtes-vous en déclin, vraiment ? Ce n'est pas évident. Encore aujourd'hui, la seule puissance qui peut projeter sa puissance à l'autre bout du monde, c'est les États-Unis. Chaque fois qu'il s'agit de se déplacer sur un théâtre d'opération, ben, vous allez avoir les Britanniques qui vont démonter un tank pour en remonter deux, ou deux pour en remonter un, plutôt, c'est ça. Les Français, ça ne fait pas longtemps qu'ils ont un porte-avions qui ne tourne pas qu'à gauche. C'était le cas du Foch jusqu'à ce qu'il le démantèle. Donc, les seuls qui sont vraiment capables d'avoir des tanks qui rentrent dans un avion et des porte-avions, ce sont les Américains. Donc, la projection de puissance est un élément important. Il est certain que dans cette analyse-là, la Chine est deuxième et le plus gros acquéreur d'armement aujourd'hui, c'est l'Inde. Donc, on a des acteurs qui sont présents, mais qui ne sont pas encore assez présents pour que l'on puisse considérer qu'ils fassent de l'ombre à l'Empire. Donc, le déclin de l'Empire américain, et on peut avoir une réponse de Normand. Ted Bank, oui, Ted Bank, non. C'est un peu entre les deux. Mais il y a des éléments qui ne vont pas dans ce sens-là. sur le plan de la politique intérieure, les shows de fin de soirée, de temps en temps, on vraiment met vraiment le doigt sur des éléments cruciaux. Le changement du climat. Le climat aux États-Unis est devenu le climat politique, on le voit, parce qu'on voit la manière dont les partis s'entre-déchirent et semblent avoir du mal à faire face. Mais le climat social également, il y a une méfiance. Je travaille beaucoup, puis je vais vous parler de ça tantôt, sur la frontière mexicano-américaine. La peur est un élément important. Les migrants légaux ont peur d'être profilés. D'avoir ce jour-là oublié le passeport à la maison ou d'avoir oublié la preuve, la carte verte et de se faire déporter. Certains se sont fait déporter alors qu'ils étaient citoyens américains parce qu'ils n'avaient pas le bon document sur eux. Ça a pris du temps pour pouvoir arriver à rétablir les faits. Donc il y a cette espèce d'ambiance, particulièrement le long de la frontière, d'ambiance de peur. Il y a aussi cette volonté de ralentir certains processus. Certaines administrations vont chercher, par exemple l'administration des parcs nationaux, vont chercher à ralentir l'impact des politiques de Trump, notamment sur l'environnement, alors que, par exemple, l'administration de l'immigration, elle va chercher, va prendre les devants. Ils essayent même d'aller plus vite que Trump. Ils profitent de l'ouverture. Ils le savaient avant même que Trump soit élu. Lorsque les entrevues que j'ai faites avec les Border Patrol le long de la frontière à San Diego me disaient, nous, dès que Trump est élu, on sait qu'on est important, qu'on compte, qu'on va avoir plus d'argent. Donc, en fait, tabler sur plus de jobs, plus de budget. Donc, cette logique-là était importante et a constitué cette espèce de climat de suspicion où on va dénoncer son voisin parce qu'on pense qu'il est peut-être illégal ou qu'il embauche des illégaux. Ça va jusqu'au point où vous avez cette petite fille de 10 ans qui vit à Brownsville, au Texas, donc très bas le long de la frontière. Et elle est hospitalisée là. Puis l'hôpital dit, on ne peut rien faire. Il faut l'envoyer à Corpus Christi, qui est un peu plus au nord. Entre les deux villes, donc c'est vraiment en ligne droite en montant aux États-Unis, il y a un checkpoint. Elle part donc, cette petite fille de 10 ans, qui est une petite fille non documentée arrivée à l'âge de 3 mois. Elle part vers Corpus Christi en ambulance. Ils se font arrêter au checkpoint. La personne qui l'accompagne est un citoyen américain dans l'ambulance. Mais là, les Border Patrol disent « Mais elle n'a pas de documentation, elle est illégale. Elle n'est pas majeure. » Ils ont suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital de Corpus Christi. Elle a été opérée. Ils l'ont attendue à la sortie du bloc opératoire, elle a 10 ans. Ils l'ont prise. Et ils l'ont incarcéré. À San Antonio, alors que ses parents sont, alors qu'il y a des lieux d'incarcération plus proches. Et il arrive parfois que ce soit simplement une infirmière qui va vous dénoncer, qui va appeler les services d'immigration. Donc, vous allez vous retrouver dans des cas où, par exemple, des femmes, je pense aux femmes particulièrement parce que c'est elles qui vont avoir besoin de soins de santé reproductive, ce qui peut avoir beaucoup d'implications sur pas mal de choses, vont renoncer par exemple à avoir un examen obstétrique ou gynécologique parce que ça va être de l'autre côté du checkpoint ou parce que c'est même entre la frontière et le checkpoint, mais elles ne savent pas si l'infirmière ne va pas la dénoncer. Donc elles vont renoncer à avoir accès à certains soins de santé par peur d'être déportées. Donc ce climat de suspicion, ce climat de peur, c'est un climat de défiance plus globalement. Lorsqu'on rencontre les gens, on ne parle pas de politique, on est très prudent, on ne parle pas du président. Puis c'est une fois qu'on a établi, qu'on a compris où est-ce que les gens campaient, que là on peut parler. Mais en public, la parole est plus restreinte. Il y a une femme qui s'est fait arrêter au Texas encore il y a 2 jours parce qu'elle avait un sticker, un bumper sticker sur son camion qui était « Fuck Trump ». Le shérif l'a arrêtée. Il lui a donné une amende qui probablement va être invalidée parce que ça contrevient au premier amendement. Donc elle est ressortie de là, on a mis un autre « Fuck the sheriff ». Mais il reste, malgré tout, que c'est un indicateur du climat. Il y a quelque chose que l'on ne trouvait pas sous Obama, où déjà il y avait cette polarisation importante. Donc ça fait partie des éléments, des grosses évolutions dont on doit tenir compte. Face à ça, face à ce nouveau président, comment est-ce que le système s'est ajusté ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a longtemps pensé que le Parti républicain finirait par dire, bon, ben, maintenant qu'il a servi, maintenant que son utilité est acquise, passons à autre chose. Et ce qu'on voit, au contraire, c'est que le Parti républicain est en train de s'étioler et de se décomposer. Vous avez un certain nombre de sénateurs qui n'étaient pas dans les modérés il y a 4 ans, mais finalement, on trouve que maintenant, ils ne sont pas pires, qui ont dit, moi, je ne reviens pas la prochaine fois. Ça, c'est embêtant. Donc, il n'y a pas de checks and balances à l'intérieur même du parti. Fine, on s'est dit. Parti démocrate va nous trouver quelqu'un qui va avoir de l'allure. Ben, on cherche encore. Parce que le Parti démocrate a le même problème que le Parti républicain. S'ils ont eu Bernie Sanders, imaginez un peu une femme compétente qui a exercé le pouvoir à différents niveaux pendant une 30aine d'années et battue par sa gauche par un septuagénaire blanc qui se dit socialiste venu du Vermont. En politique américaine, doesn't make sense. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Parce qu'il y a, là aussi, ce ras-le-bol. Pourquoi Bernie Sanders a attiré ? Parce qu'il a dit, ben, l'establishment, les banques, et effectivement, la gestion clintonienne de l'argent. Puis on pourrait même aller beaucoup plus loin. Quand on parle des scandales sexuels, vous avez remarqué qu'on balaye Bill Clinton sous le tapis régulièrement. Alors qu'il faudrait parler de Bill Clinton maintenant. Parce que le parti démocrate va avoir à faire son examen de conscience aussi, ce qu'ils n'ont pas fait. Ça va même plus loin. La convention nationale qui a eu lieu à Las Vegas il y a quelques mois, ils ont sorti les plus libéraux de Californie qui voulaient faire bouger les choses. Et on s'est tourné vers qui ? Vers l'establishment. Donc, en l'état actuel des choses, ni le Parti républicain, ni le Parti démocrate n'arrivent à faire contrepoids à Trump. Et puis, on se retrouve avec un président qui, parce qu'on a tous relu « The Art of the Deal », hein, parce que c'est tout ce qu'on avait. On n'a pas d'historique de prise de décision. On n'a pas, vous savez, quelqu'un qui a été gouverneur ou qui a été juge, où on serait capable de dire, OK, comment est-ce que... Vous savez, on va chercher, on va faire toute une analyse. On cherche les filtres cognitifs de la personne. Est-ce qu'il aimait son papa ? Comment ça se passait dans sa famille ? Est-ce qu'il est plutôt du genre à être très collégial, au contraire très hiérarchique ? Ça, normalement, lorsqu'on a affaire à quelqu'un comme Bill Clinton, même comme W, on a des éléments pour comprendre d'où est-ce qu'ils viennent. Là, on n'a rien. On a juste ce livre, « The Art of the Deal ». Et qu'est-ce qu'il dit dans The Art of the Deal ? Je suis un improvisateur en chef. J'arrive, je n'ai pas grand-chose. Puis là, je prends ma décision. Et je fais des deals. Donc ça pose problème sur les gens. Moi, ce n'est pas dans mon domaine, mais ceux qui font du foreign policy analysis, ceux qui sont spécialistes dans ce domaine-là, avec lesquels je travaille, disent « Nos modèles ne fonctionnent plus. Est-ce qu'il va utiliser des analogies ? Est-ce qu'il va être comme Reagan ? Reagan, c'était le dernier qui rentrait dans son bureau qui avait raison. » Est-ce que c'est quelqu'un qui va être comme Obama, qui va dire vraiment, est-ce que quelqu'un a un autre point de vue ? Et qui là va consulter toute la salle, va délibérer, réfléchir et rendre sa décision. Parfois, ce n'est pas une bonne décision. C'est si la ligne rouge est franchie en Syrie, nous interviendrons. Ou je demanderai peut-être au Congrès. C'est vraiment ce qui s'est passé avec Obama, mais parce qu'il avait réfléchi. Mais ça a mené à de bonnes décisions, parfois, pour Obama. Mais là, Trump, on n'a pas ces éléments-là. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que son processus décisionnel a été, au moins dans un premier temps, un processus décisionnel très erratique, où on avait effectivement l'impression, puis ce n'était pas qu'une impression, d'ailleurs, n'importe qui voulait passer le voir dans ses copains pouvait. Hey, salut, j'avais 5 minutes, je venais prendre un café, je peux rentrer au bureau Oval, et ça se passait comme ça. Jusqu'au moment où ils ont décidé de mettre de l'ordre, puis là, le général Kelly a pris la tête de la Maison-Blanche, puis a dit là, si quelqu'un veut parler au président, il vient me voir et je dis si je suis d'accord et si c'est dans l'agenda. Ce qui a permis déjà de filtrer un peu puis d'éviter que n'importe qui, genre Bannon, débarque à l'improviste. Bon, ça n'empêche pas qu'en fait, on se raconte que Trump attend d'être aux toilettes pour parler à Bannon en secret. Donc, il est quand même présent, mais de manière moins officielle. Donc, le processus décisionnel est beaucoup plus erratique. Et puis, ce qui est surprenant, parce que donc on a le processus du président avec ses conseillers, puis au-delà de ça, il y a les poids et contrepoids constitutionnels classiques, où là, normalement aussi, on a une analyse qui fait du sens. Ça ne marche pas non plus. On a découvert que le Congrès était effectivement, alors qu'on disait qu'il était paralysé sous Obama parce qu'il lui était opposé, mais il est paralysé, point. Il peine à freiner le processus décisionnel de Trump. Ils sont toujours à la remorque. pour l'instant, on voit les choses avortent, mais simplement parce que Trump n'est pas capable de les convaincre, mais aussi parce qu'eux ne sont pas capables de se brancher. En fait, le gros pouvoir d'opposition à date, c'est le pouvoir judiciaire. C'est celui qui a mis ses culottes en février, puis qui a dit « Le décret anti-migratoire de Trump, c'est non. » C'est un juge à Hawaï, c'est un juge sur la côte ouest, dans l'État de Washington. Donc, ce sont des juges, puis encore récemment, qui s'opposent et qui essayent justement de freiner, d'être le contre-pouvoir, l'unique contre-pouvoir constitutionnel à ce que fait Trump jusqu'au moment où. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le seul endroit où les nominations de Trump déboulent, ce sont les juges aux cours fédérales. Les juges aux cours fédérales, ce sont, donc ça va être au plus bas niveau de l'échelle juridictionnelle, mais ces gens-là vont percoler. Dans 10 ans, dans 20 ans, on les retrouve dans les cours d'appel. Ce sont des gens qui vont définir le droit, puis certains sont aussi tranchés et caricaturaux que Jeff Sessions ou Roy Moore. Ça vous donne une idée. Donc ce sont ce genre de personnes que vous allez retrouver. Mais en l'état actuel des choses, le gros contrepoids, le gros contre-pouvoir qui existe, constitutionnellement parlant, ce sont les juges. Parce que face à ça, on a un président, Richard Neustadt est un des universitaires qui avait parlé du pouvoir de persuasion, qui avait dit que le président, au fond, n'a pas tant de pouvoir que ça. Puis ce n'est pas un régime de séparation des pouvoirs, c'est un régime de checks and balances, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc au fond, la seule façon dont le président peut affirmer sa toute-puissance, peut asseoir son ascendance, c'est en persuadant. Puis ça s'apprend, la persuasion. Vous savez, quand Obama est rentré à la Maison-Blanche, pour le premier Super Bowl, les staff de la Maison-Blanche lui ont dit « Alors, on avait fait une liste de sénateurs, puis il a fait « Ok, faites ce que vous voulez ». Puis là, le Super Bowl commence, puis Obama s'assied au premier rang, puis là, les gens font « Non, non, c'est parce que vous ne regardez pas le Super Bowl. Là, vous êtes censé faire du chit-chat avec les sénateurs républicains, etc. » Et là, Obama fait « Non ». Puis on dit « Oui ». Puis les suivants, il l'a fait. Parce que, justement, il faut convaincre, serrer des mains, sortir. Quand Obama a dit, là aussi, bah, « Moi, deux soirs par semaine, je mange à la maison, hein, avec les filles, puis avec Michel. » Puis le staff a fait « Non, mais ça ne marche pas, on a besoin de vous dehors, en train de convaincre. » Puis il dit « Non, ça ne se passera pas comme ça, ça a été plus dur. » Alors imaginez Trump, sur lequel, apparemment, il n'y a pas vraiment de grand contrôle, puis qui, lui, fait des deals, persuade pas. Donc, c'est sûr qu'on ne se situe pas dans cette optique-là, d'autant qu'il pense que le système de checks and balances est un mauvais système, alors qu'à l'inverse, les pères fondateurs voyaient justement dans ce processus du pouvoir qui arrête le pouvoir la quête de l'équilibre et surtout l'absence de tyran. Pendant ce temps-là, on se retrouve avec une configuration vraiment particulière. Le seul check ou balance, tout dépend comment est-ce qu'on le voit, que l'on a trouvé en dehors de la Cour suprême, ce sont des militaires. Puis j'aurais jamais pensé vous dire ça un jour. Les généraux sont peut-être ceux qui sont en train de sauver la Maison-Blanche, puis peut-être le monde. Alors, il se trouve que les généraux, justement, ont, donc Kelly, McMaster, sont en train de structurer la Maison-Blanche, d'éviter que le processus décisionnel erratique, justement, continue à dérailler autant, essaye de faire en sorte que le président ne sorte pas des clous trop souvent. Mais je ne sais pas si vous avez vu le visage de Kelly lorsque, aux Nations Unies, Trump parle de « Little Rocket Man » pour parler de, et que Kelly fait ça, puis là, on dit « Oui, vraiment, ce n'était pas dans le discours. » C'est une évidence. Donc, c'est sûr que les généraux essayent de structurer, de donner une certaine structure au processus décisionnel pour éviter justement ce genre de débordement. Puis vous remarquerez qu'à l'inverse, les plus fous de ce monde, Poutine, Bachar, Kim Jong-un, finalement, ne sont pas très vite sur le bouton. Hein. On dirait qu'en fait, la rationalité a changé de bord. Et c'est intéressant en soi. Alors que n'importe quel autre président aurait fait cette réaction, aurait dit des choses comme ça, il y aurait eu une réaction démesurée. On l'entend là, tout le monde est là, ouf, c'est Trump. On attend. Donc on voit que le monde s'est ajusté. Mais on essaye de contrôler ce processus décisionnel. Ça va aussi loin que on a un général dans le commandement militaire, donc pas un de ceux-là, qui a dit moi, si je reçois l'ordre d'armer le nucléaire, si je reçois l'ordre de tirer, d'envoyer, donc d'attaquer nucléairement parlant, si c'est contraire au droit international, si c'est un crime contre l'humanité, si j'estime que c'est un crime de guerre, je ne le ferai pas. C'est un élément important. Donc, les militaires sont le frein. En fait, de ces militaires-là aussi, il y a un accord entre McMaster et Kelly qui est de dire il y en a toujours un de nous qui reste au pays. En fait, à Washington, en fait, à la Maison-Blanche. Toujours. Parce que si jamais il se passait quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire on va attendre avant de tourner les clés. Parce que vous le savez, donc, Trump, derrière lui, a un aide de camp qui porte une petite valise qui s'appelle le football. Dans le football, en fait, il y a des codes. Les codes, c'est pour déclencher le nucléaire. Mais ultimement, il faut qu'il y ait deux personnes qui tournent la clé en même temps. Souvent le chef d'état-major et le président. Il faut qu'il y ait une validation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'histoire nous dit que sous Nixon, parce que Nixon, de temps en temps, buvait un peu à la fin de son mandat, et Kissinger avait dit « Mr. President, you must not ». Mais de temps en temps, Nixon a dit, notamment après ce qui s'était passé au Liban, a dit « Bombardez-moi Damas ». Kissinger avait dit « Yes, Mr. President, we'll talk about that tomorrow ». Et de fait, il avait dit « On va laisser cela ». On en parle demain matin. Le lendemain matin, il fait « Monsieur Nixon, bien dormi, tout va bien. Nixon a eu quelque chose de nouveau ?»« Non ? Ok. » Et en fait, c'est quelque chose dans la prise de décision sous Nixon. Il y avait un processus. On ne contrevenait pas aux ordres du président, mais disons qu'on en ralentissait l'exécution jusqu'à ce qu'il devienne sobre. Il semblerait qu'il y ait un système similaire mis en place par les généraux de ce qu'on croit comprendre. Maintenant, ce qui est une bonne chose aujourd'hui, demain avec un autre président censé, comment vont être les militaires ? Comment est-ce qu'ils vont admettre, alors qu'ils ont eu un pouvoir incroyable finalement, comment est-ce qu'ils vont admettre qu'ils vont retourner dans leur caserne ? N'oubliez pas que le militaire est subordonné aux politiques. Quelle est la conséquence de ce changement d'ordonnancement de pouvoir à plus long terme ? Ça m'inquiète plus aujourd'hui. Et puis, dans les contre-pouvoirs qui existent, il y a la résistance. Si vous avez vu Les Visiteurs quand vous étiez jeune, non, ça vous dit quelque chose ? Okay. C'est ça. C'est... On est de la même génération. La résistance. Alors, il y a tout un tas de mouvements de résistance qui se sont mis en place, qui ne sont pas encore très structurés, mais il y a des endroits où, par exemple, dans certains groupes, il y a 8000 chapitres à travers le pays, avec des manuels de comment est-ce qu'on navigue à travers le Congrès pour faire avancer des éléments, comment est-ce qu'on protège des migrants, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses au niveau fédéré. Parce que c'est un élément important avant d'arriver au niveau fédéral. Comment est-ce qu'on freine la désignation d'un certain nombre de juges trop conservateurs ? Donc, des modes d'emploi. Ça semblerait se mettre en place. Et puis, on a beaucoup d'informations. On a cette chance-là de pouvoir d'être alimenté, notamment avec des documents qui, normalement, sont confidentiels par des donneurs d'alerte qui vont, donc, à travers les canaux de la résistance, nous informer de ce qui se passe réellement au sein de l'administration. La Resistance School a été mise en place à Harvard, par exemple, par des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et ce sont vraiment littéralement des modes d'emploi de comment naviguer à travers, de manière libérale dans un gouvernement plus conservateur. Parce que, globalement, quand même, la société américaine est mal en point. Il y a quelque chose, tout le mal-être, ce constat que l'on a fait en 2016 est encore entier. Ça, c'est une affiche de Banksy, comme tous les Banksy, est toujours très parlante, parce qu'au fond, le problème, c'est la fin du rêve américain. Le rêve américain, c'est l'ascenseur social. C'est l'idée qu'on peut démarrer de n'importe où et qu'en travaillant fort, eh bien, on peut arriver à s'élever dans la société et arriver à avancer. Or, un certain nombre d'Américains ont aujourd'hui le sentiment que leur rêve américain est mort. D'abord, c'est manifeste à travers quelque chose que l'on voit un peu de partout dans le monde, c'est la compression de la classe moyenne. Les pauvres sont devenus plus pauvres et la classe moyenne pauvre est devenue pauvre et les riches sont devenus plus riches. Et une petite fraction de la classe moyenne riche est passée dans la catégorie des très riches. Mais l'élément qui était l'élément visible, l'indicateur en fait, qui avant l'élection de Trump était l'indicateur le plus frappant, c'était celui de l'espérance de vie. Normalement, l'espérance de vie croît. Et elle a cru depuis les Trente Glorieuses. Or, pour la première fois, l'espérance de vie aux États-Unis décline. Et elle décline pour qui ? Puis c'est là pour l'homme blanc. Vous savez, l'homme blanc en colère ? Mais il avait peut-être raison d'être en colère, parce que son espérance de vie décline. Donc c'était l'indicateur le plus important, et en termes de perception, même si c'est aussi le cas pour les hommes noirs. Mais globalement, la tendance est à la hausse, alors que celle des blancs, elle était stable et baisse. Donc en termes de perception, l'homme blanc se sentait moins bien loti, alors qu'il l'est toujours mieux qu'un certain nombre d'autres. Mais en termes de perception, le sentiment, la perception que l'ascenseur était en panne était importante. Et un des éléments importants, une des crises que l'on ne peut pas sous-estimer, c'est la crise des opiacés. Et la crise des opiacés est devenue un enjeu de sécurité et de santé nationale, au point où ça a un impact économique sur le taux d'absentéisme, sur l'accès aux soins de santé. C'est réparti à peu près partout. C'est au prorata de la population, donc c'est sûr qu'on a des zones beaucoup plus denses, mais vous remarquerez que tous les États-Unis sont touchés, avec des endroits de certains comtés où les crises sont plus importantes. Donc ça, c'est un élément important, parce que dans votre rue, que vous viviez au Vermont, au Texas ou dans l'État de Washington, il y a des gens qui meurent d'overdose. Puis des pères de famille, des mères de famille, des gens qui n'ont rien du stéréotype auquel on associe généralement la consommation de drogue dure. Donc c'est quelque chose qui transcende les classes et qui transcende les lieux géographiques. Ça, c'est un élément important aussi en termes de perception que ça va moins bien. Puis, le taux de pauvreté. Il n'est pas normal que dans la première puissance économique au monde, on ait encore un taux de pauvreté qui se situe aux alentours de 12%. 12% de 300 millions, c'est beaucoup. Puis, ce qui est encore plus gênant, l'élément important, vous remarquerez, c'est vraiment la division, la pauvreté. On a vraiment une espèce de décalcomanie ou de calque qu'on pourrait appliquer entre les États conservateurs, le fameux Bible Belt, et les États plus libéraux. On a aussi cette découpe avec ces États qui représentaient le Dixieland de l'époque. Ça, en fait, on pourrait plaquer la carte de la Confédération, de la guerre civile. Donc, quand on voit ressurgir le vocable de la guerre civile, ça a du sens sur ce plan-là. Donc, on a une très grande division, on a deux États-Unis dans ce sens-là. Puis surtout, l'élément important, c'est les enfants. On a aujourd'hui 15,6% d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est pas anodin. Et quand on parle de pauvreté crasse. On parle du tiers-monde. C'est un élément, même si le terme n'est plus, mais l'idée est là. Donc ça aussi, c'est un indicateur que ça ne va pas bien. Ça, c'est traduit différemment. C'est en termes d'insécurité alimentaire, donc de la malnutrition, la manière dont la malnutrition se répartit géographiquement aux États-Unis. Donc là aussi, on a une très grande distorsion, mais à la fois une très grande répartition d'enfants pauvres et d'enfants qui ne mangent pas à leur faim aux États-Unis. Parlons des femmes. Le taux de mortalité féminine augmente aux États-Unis. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir aujourd'hui, ou risque de mourir aujourd'hui, et un peu de partout aux États-Unis. Pourquoi ? Il y a plusieurs éléments qui vont expliquer ça. Slide mal placé. Ce qui est intéressant aussi. Les femmes sont prises aujourd'hui aux États-Unis dans une espèce de pièces sans coin où les soins de santé sont tellement chers et notamment la contraception est très chère. Et l'assureur peut choisir de ne pas vous indemniser pour des raisons religieuses. Donc on commence par un, vous n'avez pas le droit de prendre la pilule parce que vous ne pouvez pas. Bon, vous tombez enceinte, vous ne pouvez pas avorter parce que vous allez voir, il n'y a pas de clinique d'avortement. Bon, alors vous allez avoir l'enfant. Ah oui, mais ça coûte cher d'accoucher. En fait, j'ai rencontré des femmes de classe moyenne avec un emploi. Le mari avait un emploi, ils avaient une belle maison. Elles me disaient, on n'aura pas de deuxième enfant parce qu'on ne peut pas se payer les moyens d'être enceinte et d'accoucher normalement. On ne parle pas de soins de néonatologie, on ne parle pas d'accouchement en urgence, on parle d'un accouchement de base, sans épidurale. Ça coûte cher. Donc, parce que l'assureur ne couvre pas. Alors, il faut expliquer à l'assureur qu'on se fait ligaturer les trompes. Et là, ça coûte moins cher, les soins de santé, parce qu'on a moins de risques de tomber enceinte. D'accord ? Puis là, ben, vous avez l'enfant quand même. Puis là, quel est le choix que vous avez ? Imaginez, on va à Massachusetts, ça va vous coûter 16 000 $ par année pour mettre votre enfant à la garderie. Puis on ne parle pas d'un CPE. On parle d'un enfant qui se fait garder par une télé. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de la télé. C'est un truc de base. Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'enfant. Vous ne pouvez pas en avoir non plus. Alors, tout ça, c'est une situation complexe qui touche beaucoup de femmes. À tout ça s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, avorter est devenu un parcours du combattant. Alors, parce qu'on a d'abord, en moyenne, 2 cliniques par semaine qui ferment, d'avortements qui ferment aux États-Unis. Parce qu'il y a plein de restrictions. Les conservateurs ont... maîtrise la majorité des législatures fédérées, donc provinciales en quelque sorte, et ces législateurs-là sont pour beaucoup des conservateurs. Donc vont essayer de limiter l'accès à l'avortement. Alors on ne peut pas toucher au droit à l'avortement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Ah, cette clinique-là, les couloirs ne sont pas assez larges. Il faut qu'on puisse passer un brancard. » On va dire « Ah, ben, cette clinique-là, là, il faut qu'elle ait un bloc opératoire au cas où il se passerait quelque chose dans le... tordu, même si on peut l'évacuer en ambulance à côté dans l'hôpital voisin, on va dire non, il faut un bloc opératoire. Ou alors, on va dire, il faut qu'elle soit à moins de 30 km d'un hôpital, puis que le médecin qui exerce dans la clinique ait le droit de se déplacer à l'hôpital. Mais une fois que vous avez mis toutes ces conditions, les cliniques ont dit, ben, nous, on ne peut pas se rénover, là, on ferme. Donc, la fermeture des cliniques d'avortement est très importante, puis on voit vraiment un déclin substantiel. Ajoutez à ça que... on a un certain nombre d'États qui ont rajouté des critères lorsque vous voulez vous faire avorter. Donc, il y a un délai. Ben, ça, le délai, on le trouve aussi. C'est dans pas mal d'endroits. Mais ça peut être un délai plus ou moins long. Puis là, on doit, par exemple, celui-là, cette carte est intéressante, ce sont les États qui demandent que certaines informations soient incluses dans la rencontre avec la femme qui décide de se faire avorter, comme le fait que le fœtus souffre. Ou comme le fait que ça va avoir un impact sur votre santé mentale. Ou alors comme le fait que ça a un lien avec le cancer du sein. Même pas peur. N'oubliez pas que ces États-là sont aussi des États où, dans certains cas, comme le Texas, on n'enseigne plus l'évolution dans le système public scolaire. On enseigne juste le créationnisme. Donc, c'est sûr qu'à la base, si vous êtes éduqué comme ça, votre vulnérabilité à ce type de conseil est d'autant plus élevée. Donc, on va avoir, entre la diminution, puis je pense que cette carte-là... Le Texas, c'est vraiment c'est un super gros État. En fait, économiquement parlant, c'est le même poids que le Canada. C'est pour ça que j'utilise beaucoup cet exemple-là. Mais là, vous voyez vraiment le déclin sur quelques mois, littéralement, en 2013, sur le déclin du nombre de cliniques d'avortement en raison, justement, des législations qui sont mises en place. En conséquence, vous allez vous retrouver avec des femmes qui vont avoir accès, qui vont faute d'accès, et parce qu'elles n'ont pas le choix, pas le moyen d'accoucher, pas le moyen d'avoir un enfant, avoir recours à des techniques clandestines d'avortement, ce qui n'est pas sans rappeler les cintres rouillés dans les ruelles. Donc, c'est d'où le fait que la mortalité des femmes augmente, la mortalité en couche notamment, qui est quelque chose qui ne devrait plus jamais arriver. Parce qu'il n'y a plus de soins de suivi prénataux, qu'il n'y a pas de suivi obstétrique, et que, justement, il n'y a pas ces accès-là aux cliniques d'avortement. Donc, on a moins, par exemple, de dépistage de diabète de grossesse, etc. Donc, l'impact est vraiment important pour les femmes. Et dans le même temps, il y a peu de chances que ça évolue pour l'instant, parce que les femmes restent encore très minoritaires. Dans un certain nombre de domaines, on peut parler des maires, effectivement, mais les législatures d'État, elles sont juste 24%. Et ce qui a permis à certains législateurs de dire « Oui, ben moi, l'avortement, je ne suis pas concernée. » Ou la contraception, « Je ne prends pas la pilule. » Non, effectivement. Donc, 19% à la Chambre des représentants, 20% au Sénat, 33% par exemple à la Cour suprême. Donc, il y a vraiment... une sous-représentation des femmes, elle représente 53% de l'électorat. Donc, ce qui explique aussi cette distorsion. Donc, l'homme blanc est vulnérable, la femme est vulnérable. Parlons des immigrants. Eux sont vraiment mal lotis à l'heure actuelle. Il ne fait pas bon avoir un accent ou avoir une couleur. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a tous les risques de se retrouver à un moment ou à un autre face à un suprémaciste, ça m'est arrivé, qui va forcément estimer que vous êtes là pour voler des jobs de quelqu'un. Et donc, il y a une évolution de l'immigration aux États-Unis qui est importante, mais surtout, il y a une évolution de sa perception et des liens un peu étranges qui sont faits, comme celui de Trump, qui voit donc l'immigrant comme étant porteur, vecteur d'un risque sécuritaire. Et la solution face à ça, c'est de construire un mur. Alors, pour la petite histoire, j'étudie les murs frontaliers. J'ai deux axes de recherche dans ma vie, l'un est les élections présidentielles, l'autre est les murs frontaliers. Pendant la crise de la Grande Peste, quand la peste est arrivée à Toulon, en France, les autorités ont décidé de construire un mur pour empêcher les gens de passer en Provence. Quand le mur a été à moitié complété, la moitié de l'Europe était morte. C'est à peu près ce à quoi correspond ce type de mur aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on parle d'immigration, il faut parler de frontières. Si vous n'avez jamais vu cette carte, il est important que vous la voyez parce qu'elle vous concerne. Il existe aux États-Unis ce qu'on appelle le Constitution Free Zone. Ça, c'est l'appellation de l'American Civil Liberty Union. C'est un peu caricatural, mais ça se discute. En fait, selon un décret de 1953 qu'on a ressorti des boulamites fort opportunément après le 11 septembre, on a une bande de 100 miles sur laquelle on peut vous contrôler comme si vous étiez sur la ligne. On parle d'épaississement des frontières. Donc, ici, on peut vous arrêter à McAllen, à votre entrée sur le territoire, vous demander votre passeport, fouiller votre véhicule, prendre votre téléphone cellulaire, demander les codes, accéder à vos réseaux sociaux. Mais on peut le faire jusqu'à San Antonio. Maintenant, passons au nord. Vous rentrez au Vermont. Vous êtes downtown Burlington en train de faire du shopping. Un Border Patrol passe, pense que vous êtes suspect. Peut vous arrêter parce que vous êtes pile en plein milieu de la zone. En fait, tout le Vermont est dans la zone. Donc, ça, c'est un élément important qui a un impact pour les migrants. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir ce contrôle ici, et en fait, au nord du 100 miles, vous avez des checkpoints tout le long. En fait, vous en avez entre les deux. Et en fait, à n'importe quel moment, vous pouvez vous faire contrôler d'élite de faciès. On peut vous demander de prouver votre citoyenneté. Quand je fais mes recherches sur cette zone-là, j'ai toujours mon passeport et une copie de mon passeport au cas où. C'est pas vrai qu'ils vont me déporter à Ciudad Juárez. Je travaille avec Ciudad Juárez, c'est pas un problème. Et donc ça a un impact pour les immigrants illégaux, non documentés, qui travaillaient jusqu'à présent dans cette zone-là, mais qui faisaient des allers-retours tous les jours. Ou certains qui se sont installés parce qu'ils travaillent, par exemple, dans l'hôtellerie et qui, aujourd'hui, se font déporter de l'autre côté. Pour la petite histoire, il y a des gens avec lesquels j'ai fait des entrevues qui sont depuis 20 ans aux États-Unis. Ils sont arrivés à l'âge de 3 mois. Ils sont américains. Parfois, ils ont même découvert qu'ils n'étaient pas américains au moment où on leur a demandé une carte, par exemple, pour entrer à l'université. Puis, c'était jamais... Est-ce que certains collèges laissent passer les choses, d'autres pas ? Ou le moment où ils ont voulu un permis de conduire, puis on leur a dit, non, chérie, c'est pas possible, en fait, on t'a jamais dit, mais t'es pas américain, t'as pas de carte, tu peux pas. Donc, mais des gens qui sont américains, qui pensent à l'américaine, certains qui ont même jamais appris l'espagnol, et ces gens-là, s'ils se font attraper, ici ou ailleurs, vont se faire déporter, et j'en ai rencontré à Ciudad Juárez, qui ont aussi peur de Ciudad Juárez que le reste des Américains, qui pensent qu'ils sont dans une terre hostile, puis qui se retrouvent là, puis qui savent pas quoi faire, parlent pas espagnol. Ce sont des Mexicains, mais qui n'ont pas de papier mexicain. Mais juste, imaginez-vous, vous retrouvez aujourd'hui, on vous dit que vous êtes afghan, vous vous retrouvez en Afghanistan, puis il faut que vous vous fassiez faire une carte d'identité. Pour eux, ça représente ça. C'est un autre monde. Alors, cette détresse-là, elle est importante, puis parfois, ça va même plus loin. Le chef de famille se fait déporter, et là, la famille qui n'a pas de ressources va s'auto-déporter, en quelque sorte, avec lui. Et là, on se retrouve avec des enfants qui sont des citoyens américains, qui doivent être scolarisés au Mexique, qui n'ont jamais appris l'espagnol, les parents ne savent même pas comment on fait ça. Des situations qui n'ont juste pas d'allure et des gens qui, à 95%, avaient un emploi et payaient des impôts. Alors, la solution de Trump, c'est de construire un mur. Parlons-en. il existe déjà. En fait, un tiers de la frontière est déjà murée. Ce que vous voyez là, c'est la frontière à San Diego. Donc ici, on est côté San Diego. De l'autre côté, Tijuana, le mur s'enfonce dans le Pacifique. Et sous l'eau, pour éviter que les gens nagent puis fassent le tour. Donc, le mur existe déjà sur à peu près 1000 km. Puis, c'est important de regarder ça, parce que ce que vous voyez ici, vous le connaissez, évidemment, c'est Stansted. Alors, la frontière à Stansted, puis là, on est sur Canusa, qui est la route centrale. Stansted, vous savez, c'est cette ville où on a une bibliothèque, puis la frontière traverse la bibliothèque. Ça a été d'ailleurs super pratique pendant, par exemple, la guerre du Vietnam, parce que les déserteurs du Vietnam américain venaient pour certains au Canada, certains au Québec. Puis là, il suffisait qu'ils viennent s'asseoir dans la Haskell Library, côté canadien, puis la famille était côté américain, puis ils pouvaient se parler, puis on ne pouvait rien leur faire. Ça, elle a été pratique, cette frontière souple, en quelque sorte, lorsque la reine Lily a décidé d'ouvrir son bordel sur la frontière. Puis en pleine prohibition. Alors là, on amenait les barils d'alcool du Québec, on les faisait rentrer côté québécois, on servait les verres sur le comptoir, les Américains se tenaient côté américain, le verre côté canadien. Puis bon, il y avait un bordel au-dessus, ça c'était répréhensible, mais ça a quand même pris 20 ans au Border Patrol, aux polices de part et d'autre, de se dire « Hey, si on arrive en même temps, on les pogne ». Parce que jusque-là, ça rentrait d'un côté, ils sortaient côté canadien, quand ils arrivaient côté canadien, ça sortait côté américain. Donc, c'est ce type de frontière souple. Et de fait, ça c'est un fugitif que les Américains essayent de ramener côté mexicain. Et les Mexicains le tirent du côté mexicain. Donc, c'était le Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, c'était une frontière souple comme ça. Donc, ce que vous allez voir ensuite, dites-vous que c'est quelque chose qui, à tout moment, imaginez quelqu'un qui part de Montréal, qui va commettre un attentat à Washington. Combien de temps ça nous prendrait pour avoir un mur à la frontière? Et c'est cette crise sécuritaire qui n'a pas encore eu lieu de notre côté, parce qu'il y a vraiment un contraste entre ça, c'est la frontière entre l'Arizona. L'état de Sonora côté mexicain, l'état d'Arizona côté américain, c'est un mur qui est gigantesque, qui va à peu près jusqu'au plafond. Puis de l'autre côté, vous allez vous retrouver en Colombie-Britannique, à Coulter's Lake. Puis je peux vous garantir qu'on passe de l'autre côté sans problème, je suis allée aux champignons. Puis je ne me suis jamais fait arrêter, à date. Maintenant, il commence à y avoir 2-3 caméras, je suis plus prudente. Ce mur-là va avoir un impact. Il a déjà un impact sur les écosystèmes aux États-Unis. Important. Le petit Oslo que vous voyez là est en voie de disparition. Il va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre d'animaux qui allaient mettre bas de l'autre côté ou qui allaient se reproduire de part et d'autre de la frontière, qui avaient des lieux qui étaient liés souvent à l'eau, à d'autres éléments comme ça. Puis ces animaux-là, le mur arrive trop vite, ils ne sont pas capables de s'adapter. Donc il y en a un certain nombre que l'on voit disparaître à l'œil nu. C'est un élément important. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de Pékin sur les grandes murailles de Chine. Donc, on a vraiment une analyse sur 2000 ans. Ils ont dit, effectivement, la faune et la flore ont évolué de manière différenciée de part et d'autre. Mais là, ça n'a même pas le temps d'évoluer. Parce que la grande muraille de Chine, ils ont mis juste quelques siècles. Là ça s'élève extrêmement rapidement. Donc, l'impact est important. Et surtout, on va détruire des éléments. Cette biche-là a des insectes qui vivent autour. Il y a une petite chouette qui se nourrit de ces insectes-là et qui n'est pas capable de voler au-dessus de la barrière, simplement. Et qui donc se paye régulièrement la barrière et on retrouve donc ces animaux morts régulièrement. Donc l'impact sur les écosystèmes, sur l'environnement déjà fragile, est important. L'impact sur les humains aussi. Le mur qui est déjà érigé force les gens à passer, à traverser à travers le désert. Alors là où vous traversiez à pied en vous cachant dans une ville, aujourd'hui, vous devez prendre des stratégies beaucoup plus risquées. Si vous avez vu Babel, le film, ben vous savez de quoi je parle. Les gens vont faire le choix de traverser et traverser très loin. Parfois, en prenant des stratégies vraiment, vraiment dangereuses, parce qu'on parle beaucoup de l'Amérique centrale et du Mexique, mais en l'occurrence, les entrevues que j'ai faites avec les Border Patrol, ils venaient d'arrêter des gens qui venaient de Syrie et du Sri Lanka, et qui avait choisi de voler vers la Colombie, parce que la politique de visa de la Colombie est plus laxe. De Colombie, il remontait vers le Panama. Il traversait à pied la jungle du Panama, une jungle dont ils disent eux-mêmes qu'ils marchent sur des cadavres. C'est tellement elle est rough. C'est une des jungles les plus denses, les plus hostiles au monde. Et là, en fait, l'intérêt pour eux de traverser à travers la jungle du Panama, c'est quand ils se retrouvent au Panama, c'est un peu comme les gens qui arrivent par Wrexham Road. Ils sont là. Ils ne se font pas prendre au point d'entrée, ils sont déjà dans le pays. Donc là, ben, le Panama ne peut rien faire, donc les relâche et ils remontent le long de la frontière vers le Mexique. Donc la stratégie est extrêmement dangereuse. Donc vous dire, traverser un désert après, c'est juste qu'une addition dans une stratégie qui, globalement, est dangereuse. Alors, ce que vous voyez, les points rouges, ce sont les morts à la frontière. Et en fait, on documente les morts à la frontière pour voir pour signaler en fait aux migrants la dangerosité de la stratégie qu'ils vont adopter, mais ça ne change rien. De l'autre côté, on a des border patrols qui, à près de 30%, sont des vétérans. Pas de problème avec les vétérans. Ce ne sont pas des vétérans du Vietnam, là, ce sont des vétérans d'Afghanistan et d'Irak, puis des gens qui n'ont pas été démilitarisés. Donc, quand on leur parle, la prise de contact doit se faire à travers ça. Moi, j'ai toujours les voir. « Hey, hi, I'm from Canada, I'm a researcher. Are you a vet? Oh, yeah, ma'am. I was in Afghanistan. » Puis là, on commence à discuter, puis ça va. Mais là, on leur parle de ce qu'ils voient, puis ils me disent oh, « C'est menaçant, on vit avec la menace. » Puis le discours est un discours qui est un discours militaire. Donc, on voit une évolution de la frontière qui est importante sur le plan du vocable, au point où Fox News, par exemple, bon, qui n'est pas une référence, mais quand même, Fox News, au moment où on avait le front de l'Afghanistan et le front de l'Irak, disait que la frontière était un troisième front. Donc, il y a une militarisation du discours à la frontière qui va avoir un impact sur nous, parce que les gens qui sont déployés au sud, de temps en temps, remontent vers le nord. Le travail de Susan Arbage-Page, c'est une femme avec laquelle je travaille, qui fait exactement le même travail que moi à la frontière. Elle documente les trajectoires de migrants. Mais elle le fait avec son appareil photo. Donc elle va passer à travers le désert, puis elle va dire, on va trouver des vêtements. Vous savez, les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils perdent toujours une chaussure, une chaussette, quelque chose. Donc elle dit souvent, on va trouver une chaussure d'un petit. On va trouver un manteau. Parce que quand vous partez dans le désert le matin, il fait froid. Puis, au fur et à mesure que la journée avance, il fait chaud. Vous allez laisser votre manteau, on va trouver de la nourriture lyophilisée, des sachets, des bouteilles d'eau. Elle dit, quand on trouve les papiers d'identité, c'est étrange. Quand on voit les photos de famille aussi, c'est un indicateur que les gens ont tout laissé derrière eux. Puis elle dit, lorsqu'on voit des sous-vêtements de femmes, c'est qu'il y a eu viol. 80% des femmes sont agressées sexuellement le long de la frontière par leurs co-migrants, par les trafiquants, par les border patrols. Parce qu'un des problèmes que Donald Trump n'a pas compris, c'est qu'il y a une grande partie de la drogue qui passe simplement par les points d'entrée normaux. Parce qu'à force de recruter massivement sans vérifier toujours l'origine des gens, ben ils sont plus vulnérables, par exemple, à la corruption. Puis, ce que vous voyez là, c'est un border patrol en train d'essayer de dessouder une catapulte. Les trafiquants ont soudé une catapulte contre le mur. Donc, ils utilisent le mur comme support. Et cette catapulte permet de mettre de la marie ou n'importe quoi dedans. Vous la lâchez, ça passe de l'autre côté. Vous n'avez même plus besoin de mule. Parce que le mur ne sert à rien. Vraiment à rien. OK. Vraiment à rien. Ce que vous voyez à gauche, c'est des empreintes de pas le long de du même mur. Alors que le vrai problème, il est là. Aux États-Unis, depuis 2001, 400 000 personnes sont mortes par arme à feu. Ça, c'est le vrai problème. La petite bande blanche, là, ce sont les morts d'attentats terroristes. Donc le vrai problème auquel font face les États-Unis en termes de violence ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Ça, c'est un album photo de finissant du secondaire du Nebraska. Ils ont été autorisés à poser avec leurs armes. Ça, c'est Cricket, une compagnie qui fabrique des carabines pour les enfants. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Puis ça, c'est Moms Demand Action, qui est un groupe militant qui dit, entre l'enfant qui tient Love Kinder puis l'enfant qui tient un fusil d'assaut entre les mains, lequel des deux tient un truc illégal ? Celui-là, parce que dans l'œuf Kinder, il y a quelque chose, il pourrait s'étouffer avec. Donc la FDA l'a interdit à la consommation. Donc, c'est cette déconnexion-là qui est importante, mais on n'est pas sorti du bois pour autant parce que la National Rifle Association fait des petits scorecards pour distribuer, pour dire cet élu-là, on lui met A, celui-là, on lui met F parce qu'il ne nous soutient pas. Donc, il y a toute une politique, puis là, je le condense, je le résume, mais toute une politique qui est liée à ça. Alors, rapidement, quelles sont les perspectives ? 2018, les élections de mi-mandat vont avoir lieu. La probabilité que Trump perde ses élections est relativement élevée. Donc, il y a un Congrès qui lui soit plutôt hostile, une Chambre des représentants qui ne soit pas en sa faveur. Mais ça, ça suppose que les démocrates se branchent, ce qui n'est pas gagné. D'autant que ce que vous voyez là, ce sont les districts gerrymandered. Le gerrymandering, ce sont les découpages de districts faits par les républicains pour favoriser leur... Bon, j'ai pris les plus beaux, hein. Mais quand même, ça vous donne une idée. Et donc, les législatures sont républicaines, ce sont eux qui découpent les districts. Et puis, voter, c'est compliqué aux États-Unis. Il y a tout un tas de processus. On vous demande de plus en plus de documents, avec de plus en plus de restrictions. Donc, comment va s'exercer le processus ? La vote de 2018, c'est complexe. Mais mettons qu'on imagine que la Chambre des représentants bascule côté démocrate. Est-ce que la destitution est une possibilité ? Tout à fait. Mais là, il va falloir que les astres s'alignent en titi. Parce qu'il y a tout un processus, c'est arrivé seulement 3 fois dans l'histoire, et pour l'instant, donc il faut avoir la majorité des 2 côtés. Mais imaginons que ça puisse se faire, c'est envisageable. Mais ça suppose effectivement que Mueller, qui est le procureur général, arrive avec quelque chose de plus croustillant que ce qu'il a actuellement. Alors aujourd'hui, la probabilité que Trump soit réélu est importante. Oui, parce qu'il n'y a personne pour lui faire face. Et d'autant que le processus de vote n'est pas gagné. On vote de manière très différente aux États-Unis. Ça, c'est ma partie préférée. Qui a un doctorat ici ? 1, 2. 2, 3. De vous 3, 4. Qui a fait un post-doc ? OK. Qui a fait 2 post-docs ? OK. Au Nouveau-Mexique, je suis la seule à pouvoir voter, parce que je suis la seule, en termes d'années d'études, capable de comprendre le bulletin de vote dans son intégralité. La moyenne, en fait, des Américains, c'est 8 années de scolarité. Puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voici un bulletin. 2. Attendez. 3e page. 4e page. 5e page. 45 minutes pour lire le bulletin et le comprendre. Alors, c'est pas gagné. Mais maintenant, si on se place de notre point de vue, what's in it for us? Parce que c'est un peu notre président aussi. Hein. On a la politique de notre géographie. Pour l'instant, Trudeau le gère pas si mal. En tout cas, on l'a pas pris à brosse-poil, ce qui était déjà une affaire. Et notre économie dépend substantiellement de ça. Donc, c'est sûr que pour nous, l'élément, la négociation de l'ALENA, qui, de ce qu'on entend de l'intérieur de la machine, est loin d'être évidente, la négociation de l'ALENA est un gros morceau. Et le problème, c'est qu'on a des changements de cap chaque jour. Donc, pour l'instant, on ne voit pas trop la direction. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'arriver à s'entendre avec le Mexique et à s'assurer de ne pas le retourner contre nous. La seule chose que l'on peut dire, au fond, c'est que c'est peut-être ça la solution. Et qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur le plan diplomatique, mais on a de la chance, malgré les discordances, on a, et quoi qu'on pense du leader que nous avons actuellement, on a quelqu'un qui a compris qu'il ne fallait pas déplaire et qui a su comment le prendre, et ça n'est pas l'apanage de tout le monde. On va dire ça comme ça. Merci.